Bonjour et bienvenue sur Radio Rôliste, nous sommes en juillet 2011 et c'est le numéro 6. Bonjour à tous, bonjour Cyril.
Bonjour Cobal.
Et alors, comment va ?
Bah, ma foi, ça va bien.
Alors, et toi, tu les prépares tes vacances ?
Ah oui, je prépare mes vacances, je vais aller en Bretagne.
Eh bien, tu vas pouvoir profiter de ce temps pour jouer probablement.
Oui, bien sûr.
Surtout qu'en Bretagne, comme il pleut, t'es obligé de rester à l'intérieur et donc tu ne peux que faire du jeu de rôle.
Oui, mais là c'est sans compter la piscine.
Ah.
Couverte.
Ah, oh !
Chauffé.
D'accord. Très bien, je vois que monsieur... Bref. Donc, nous allons faire un numéro d'été un peu plus léger que d'habitude. Il y aura moins de livres critiqués, car Cyril n'a pas fait son travail.
Oui, j'ai glandé.
Et donc, cette fois-ci, il ne nous a préparé qu'un seul jeu.
Mais quel jeu
Mais il nous prépare de grosses choses pour la rentrée. C'est-à-dire des livres, il y a vraiment de la matière.
Où il y a plus de 200 pages. Voilà.
Donc, Ah oui, alors quelques petites news. J'ai lu récemment quelque chose de très intéressant. Cyril, est-ce que tu connais Mouseguard ?
Tu veux dire Mouseguard ?
Oui, voilà, celui-là même.
Non, désolé, je ne connais pas encore.
Ah là là. C'est un jeu absolument génial qui est basé sur une BD tout aussi géniale. Et qui
est mouse avec des souris et puis des gardes nazis autour.
Et des gardes nazis.
Mais mouse, non, de Art.
Non, pas du tout, aucun rapport.
D'accord.
C'est non, en fait,
c'est pas un jeu où tu joues des gardiens de camp nazis en forme de souris.
Non. Un point Godwin à 2 minutes 4 de podcast, c'est pas mal, je trouve. Non, en fait, c'est un jeu où l'on joue effectivement des souris, donc qui sont à leur taille normale, donc petite.
D'accord.
Et qui ont une technologie de type médiéval.
Ok.
Et donc les personnages incarnés par les joueurs sont des souris gardes, voilà.
D'accord, mais
et qui doivent se défendre contre des événements qui atteignent leur communauté. Donc ça peut être une taupe, un oiseau, comme ça, voilà. Donc voilà, si tu as l'occasion, regarde vraiment la BD parce qu'elle est hyper belle. Les dessins sont vraiment magnifiques.
C'est de qui ?
Donc l'auteur s'appelle David Petersen et l'ouvrage date de 2007. Donc tu vois, c'est quand même c'est assez récent. Et voilà, donc ce jeu sera publié par...
Mais le jeu existe déjà en anglais ou alors...
Oui, le jeu existe déjà en anglais.
La version française sera bientôt publiée.
Le jeu est très beau parce qu'en fait, il reprend à la fois le format atypique de la BD, c'est-à-dire un format carré vachement joli, et il reprend également les illustrations et tout le côté graphique.
Est-ce que le jeu est un genre un fromage à trous ou enfin des... Tu disais un format atypique, c'est... Est-ce qu'il est...
Non, c'est un format carré, c'est tout. C'est un format carré un peu plus petit que du comics, tu vois, en termes de format. Voilà. Donc ça va apparaître chez Footbridge. Donc l'éditeur du guide du meneur de jeu, tout ça. Donc c'est un jeu qui sera soumis à souscription.
D'accord, comme beaucoup de jeux.
Donc ils vont lancer ça bientôt. J'ai pas tellement plus d'infos sur le sujet, mais vu la qualité du jeu d'origine, je pense que ça vaut le coup de veiller au grain pour les souris. Bon, sinon toi tu as des choses à dire, des trucs, non ?
Alors, non.
D'accord.
Non, j'ai vraiment glandé.
T'as
fait.
Vraiment rien foutu. Hein.
Désolé.
Bon, eh bien, puisque c'est ça, je vais te conseiller pour tes vacances, tiens. Parce que je sens que tu as besoin de te défouler. Et je pense qu'il faudrait que tu joues à 3-16 Carnage dans les étoiles. Alors ce 3-16, donc Carnage dans les étoiles, c'est un jeu de Gregor Hutton qui a été traduit et publié par le 7e Cercle en français. Donc en fait c'est un jeu défoulatoire puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'incarner des soldats faisant partie de forces terriennes. Et qui sont envoyés dans l'espace afin de buter tous les extraterrestres qu'ils rencontrent, espèces évoluées ou non. Bref, ils doivent faire place nette.
D'accord. Il n'y a pas de compréhension entre les espèces ou de.
Non. Voilà. C'est ça pas fait pas partie du. Ça fait pas partie du programme. Ce jeu est orienté vraiment dans ce but, c'est-à-dire faire un jeu qui soit à la fois simple, super bourrin. Et qui permettent des options amusantes de façon à jouer avec ce côté bourrin. Donc les personnages qu'on incarne sont bien évidemment des soldats qui font tous partie de la... donc le 3-16, ça doit être la 3e brigade du 16e, je sais plus quoi. Enfin bref, voilà un truc comme ça. Qui est l'unité d'élite qui va donc dans les endroits les plus dangereux de la galaxie.
Un peu à la Starship Troopers ou...
Exactement. C'est, ça.
C'est parodique aussi, comme dans le film ou alors c'est sérieux comme dans le livre
C'est clairement parodique, en fait. Enfin, c'est du parodique sérieux, en quelque sorte. C'est
un fameux parodique sérieux.
Mais non, mais tu te souviens de Final Frontier? C'est le jeu de SF en pyjama.
Oui, dont tu nous avais parlé.
Voilà,
oui.
Voilà. Donc c'est également de la SF parodique, mais dans un autre genre. C'est-à-dire, il y a une note comique, mais qui n'apparaît pas aux personnages eux-mêmes.
Oui, et je me souviens aussi dans un autre registre de RAS.
Oui, qui était très bien.
Qui avait aussi sa composante comique, avec notamment les extraterrestres... sous forme de petits gris là, qui enlevaient les vaches parce qu'ils étaient accros au lait de vache, un truc du style. Il y a des histoires comme ça.
Ah, je me souviens plus, il y a longtemps que je l'ai pas lu.
Oui, ça commence à. Mais voilà, toutes les demi-générations, un nouveau jeu de SF parodique vient. traverse le ciel, une étoile filante et s'écrase sur les terres des rôlistes.
Sur les terres qui ne sont peuplées que de donjonneux. Alors, dans ce jeu, on a donc, nos personnages ont donc un grade, donc de soldat, caporal, sergent, etc., jusqu'à général ou je ne sais quoi. Donc, ils ont également une réputation, des capacités, donc au nombre de deux, très exactement. C'est-à-dire les capacités de combat et les capacités hors combat. Donc, quand vous combattez, il y a une capacité, et quand vous ne combattez pas, c'en est une autre.
D'accord.
Donc, les choses sont relativement simples à comprendre. Ah, il y a également un truc très important.
Ça fait un peu bizarre. Ça fait, genre, je suis très fort hors du combat, mais je perds tous mes moyens lors d'un combat. Je peux avoir une force combat de 1 et une force hors combat de 3, ou j'ai pas compris.
Alors. Oui, tu peux effectivement créer un personnage comme ça, mais il va peut-être pas vivre très très longtemps. Et puis, étant donné que...
Oui, effectivement, si on a un personnage qui est bon que dans des circonstances non stressantes et au repos, au calme complet, effectivement, pour l'aventure, ça va être chaud.
Mais non, mais en général, c'est Rambo, on n'en voit pas un type avec des petites lunettes et qui a failli faire expert alors, comptable,
coup,
mais qui est rentré dans l'armée.
Pourquoi un joueur, à moins que ce soit complètement au hasard, mais mettrait des points ou que sais-je dans des compétences hors combat?
Disons que ça permet de faire des choses sympas aussi, genre soigner ou des
D'accord,
trucs comme ça,
mais...
ou faire de la stratégie ou je sais pas.
De la quoi?
Quand tu parlais du fait de faire. Comment dire. Pourquoi un personnage choisirait des capacités hors combat. Alors, effectivement, il vaut mieux que sa capacité de combat soit assez forte, car il y a un petit compteur qui s'appelle les kills, dans lequel c'est tout simplement le nombre de créatures que tu butes tout au long de ta carrière. Et donc tu peux installer enfin tu peux avoir ainsi sous les yeux ton tableau de chasse.
Est-ce que c'est celui qui achève la créature qui a le droit de l'ajouter ou tout le monde tous ceux qui ont contribué peuvent
Tu veux dire au moment de la séparation pour le butin?
Quoi, c'est des réflexes de MMO qui reviennent.
Toi, je parie que tu ninja. Tu ninja loot parfois?
Ah, écoute, ne remuons pas
le couteau dans la. Ouais. Donc, alors, il y a également les flashbacks, qui est une option, enfin, qui est un petit outil de narration qui est assez sympa. En fait, ça te permet de donner au fil de l'aventure des forces ou des faiblesses à ton personnage, et on les révèle par le biais d'un flashback. C'est-à-dire que, par exemple, t'es dans un combat, t'as besoin de faire une action. Qui n'est pas dans tes compétences ou tu aimerais avoir une force qui te permettrait de faire un peu plus ou plus spécialisé. Et donc là, tu fais appel à un flashback, c'est-à-dire tu te remémores une scène ancienne que tu racontes et pour laquelle tu attribues une force ou une faiblesse. Selon ce que tu souhaites et donc ça te permet en fait de typer ton personnage au fur et à mesure des aventures
tout en
restant tout le temps en combat finalement.
D'accord, mais est-ce que du coup ça fait une grande parenthèse dans le combat et tout le monde raconte ce qui s'est passé il y a 20 ans à la MacLeod dans Highlander comment ça se passe
ouais c'est un peu comme ça ouais d'accord. Tout à fait, mais c'est pas tout le monde en même temps en fait, c'est chacun d'accord. qui a son moment de où la caméra
oui,
est braquée sur lui et
j'imagine il y a des enfin tu peux pas trop en abuser ou parce que sinon effectivement c'est facile de dire oui mais je me souviens que j'ai un oncle milliardaire ou
oui voilà genre de truc. Si la capacité hors combat ça sert également à déterminer le plus haut grade du groupe.
D'accord, oui, par opposition au fait de connaître les grades.
Un gros bourrin décérébré qui lui restera simple soldat toute sa courte vie.
Oui, d'accord. Donc soit tu sais te battre, soit tu as le droit d'envoyer les autres se battre à ta place.
Voilà, exactement. En sachant que également pour chaque un truc qui est assez marrant au niveau du background, c'est que pour chaque grade de personnage, il te donne un ordre à faire. Donc par exemple, quand tu es soldat, c'est tuer tout ce qui bouge, en gros.
D'accord.
Et obéir aux ordres. Et en fait, plus tu augmentes dans la hiérarchie, plus tu as des ordres qui viennent s'ajouter et qui sont de plus en plus stratégiques et macroscopique en fait pour gérer des situations de plus en plus larges.
D'accord.
Et donc alors il y a des petites choses amusantes. Par exemple, quand on regarde le grade le plus élevé et on voit en fait son but à très long terme et c'est marrant en fait du point de vue du background. Mais je laisse la surprise à ceux qui le regarderont. Au niveau du système de jeu. En fait, le MJ a des jetons de menace qu'il met en jeu. Et en fait, lorsque les personnages donc défouraillent et tuent des gros cafards géants, à chaque fois qu'ils font des kills, en fait, ça enlève des jetons de menace. Et lorsqu'on arrive à la fin des jetons de menace mis en jeu par le MJ, donc c'est simplement qu'il n'y a plus de créatures à tuer et qu'on peut changer de scène.
D'accord. Ah, d'accord, ok.
Donc c'est un petit côté special qu'en fait.
Oui, oui, d'accord.
C'est du jeu de rôle special.
Et les joueurs voient combien de jetons il y a ou...
Oui, tout à fait. Ouais. Il me semble... Alors,
ils peuvent se dire, ça c'est une grosse scène, il va y avoir un massacre ou alors...
Ouais, voilà. Ouais. Ou alors avoir une grosse créature avec plusieurs jetons... Évidemment, dans un jeu comme ça, il y a pas mal d'armes qui font plein de dégâts, donc des fusils à énergie, des grenades, des donc plein de trucs rigolos pour ceux qui aiment jouer avec le matériel. Pour le MJ, il y a pas mal, il y a pas mal de choses également sur comment mettre en scène ce type de jeu, parce que c'est sur un domaine quand même extrêmement restreint, puisque on dit on va refaire la scène de comment il s'appelle le film.
Starship Troopers.
Voilà, on va refaire une scène de Starship Troopers. En gros, c'est l'objectif d'une partie comme ça.
Oui.
Et donc, il y a plein d'outils qui te permettent de déterminer les décors dans lesquels tu évolues, ce que tu seras amené à faire, les situations d'embuscade, enfin les situations stratégiques qui vont se produire. Et donc, ça prémâche pas mal le travail. De façon à ce que le MJ puisse lui aussi se défouler un petit peu et envoyer des ordres de créatures.
Oui, c'est un jeu de rôle à jouer enfin, très détendu. Il n'y a pas besoin d'allumer les bougies.
Oui, voilà.
On peut sortir voilà, les pizzas et le coca. Et bon, ça va pas déparer.
Voilà, exactement.
C'est une ambiance franche rigolade. Avec des bons gros morceaux d'aliens dedans.
Ouais, voilà, et puis même tu peux le twister un peu pour en faire un. Pour même apporter un peu de sens au jeu, quoi, si tu veux. Je pense que c'est assez malléable. Ouais, et puis voilà, donc ça pour moi, tu vois, c'est le jeu que je te conseille pour cet été.
D'accord, oui, c'est le.
Voilà, avec un beau bricard et un verre de rosé, eh ben tu peux jouer.
C'est le jeu barbecue de l'été.
Voilà, exactement. je le recommande vivement. Il est vraiment très sympa. Il est tout petit. Et il est pas cher en plus. 12,50 €.
Ah oui, c'est pas cher.
C'est même pas le prix d'un biba spécial été. Donc, franchement, tant qu'à faire, il vaut mieux tuer des gros aliens.
D'accord. Écoute.
Bon, eh bien voilà. Et toi, Cyril, de quoi vas-tu nous parler? Qu'as-tu découvert?
Eh bien moi j'ai découvert, je dois l'avouer par hasard en allant en boutique, j'ai découvert le livret de découverte du jeu de rôle Within. Je vais vous parler de Within, donc c'est un jeu d'horreur. Qui n'est pas encore paru, qui paraîtra normalement au troisième ou quatrième trimestre 2011.
À la fin de cette année donc.
Tout à fait. Et en fait, il y a un livret de découverte qui est disponible en boutique et qui comprend tout ce qu'il faut pour participer à la souscription. Donc, décidément, c'est très à la mode.
Ah oui, c'est effectivement. Ouais.
Voilà. Et donc, c'est un jeu d'horreur, on va dire générique. C'est amusant parce que moi qui suis pas finalement beaucoup d'actualité rôlistique,
oui.
J'en avais pas entendu parler, mais je sais que Benoît Atinost, l'auteur, c'est un grand fan justement des jeux d'horreur et d'épouvante.
Oui.
Il l'avait amplement montré à l'époque où moi j'étais rédacteur en chef à Backstab, et c'était oui. C'est un scénariste aussi de talent, donc
Oui, il écrit très bien.
Ouais. Et c'est amusant parce qu'il y avait aussi un autre pigiste de Backstab.
Oui, Johan Sipion.
Qui lui fait aussi un jeu de rôle d'horreur générique. Donc ce sera intéressant un peu plus tard, pourquoi pas, de comparer les deux. Mais je pense que les deux risquent d'être très intéressants. En tout cas, moi, j'ai été très séduit par Within, le livret de découverte. Ce livret de découverte porte un sous-titre, Le Diable du New Hampshire. En fait, il consiste en deux parties, une première partie relativement courte qui décrit les règles, qui sont très simples, et une partie un petit peu plus longue qui décrit un scénario d'introduction ou pas. Enfin, c'est pas vraiment un jeu à monde imposé très fort, etc.
Mm-hmm.
Ça se présente comme une boîte à outils.
D'accord.
Alors, je pense qu'il y aura un univers, d'après ce que j'ai compris,
lié,
assez cohérent, etc.
D'accord.
Mais
pour ça, c'est une grosse différence avec Sombre, par exemple.
Voilà.
Qui, lui, est orienté sur plusieurs genres.
Ouais, il y a quand même effectivement un univers qui va se profiler, visiblement, avec sorte d'organisation secrète auxquelles appartiendront certainement les joueurs, ce qui leur donnera l'occasion peut-être de travailler ensemble, qui vont constater la montée à travers le monde de phénomènes étranges,
d'accord.
Voilà, qui vont investiguer.
D'accord.
Voilà. Mais je reviendrai sur le, voilà, le contexte, le scénario, etc. plus tard. Là, je vais commencer par le moteur.
Oui.
On ouvre le capot, qu'est-ce qu'on trouve ? Il y a un système de règles sans D. Voilà.
Ah, d'accord.
Alors, donc c'est très simple. On compare en fait le score du personnage qui va de 1 à 3, quelque chose comme ça, à une difficulté. On fait une soustraction et ça nous donne des résultats en fait. Ensuite, il faut un petit peu de bon sens. Il faut bien sûr que le...
D'espièglerie aussi.
D'espièglerie. J'allais faire un exemple avec par exemple capacité à boire de la bière à 3 et
oui, ça me rappelle quelque chose.
Et mais tu sais pourquoi ça me rappelle quelque chose à moi aussi, parce que c'est la même personne qui a écrit le système de règles, c'est Brand.
Ah d'accord, bah oui, ok.
J'avais fait une petite comme ça sur Tanga, je crois.
Oui, oui, Tanga, voilà, ouais, Tanga.
Le jeu de rôle historique japonais.
Oui.
Et donc le système là, c'est aussi un système made in Brand qui décidément prouve qu'il sait s'y faire.
Il sait s'y prendre.
Oui, tout à fait. J'ai trouvé très intéressant. Alors, bon, c'est un système sans dé. Donc depuis Ambre, qui à ma connaissance, je crois que c'était le premier système.
Le premier système sans dé. Oui, hein, je crois que c'est le premier. Bêtises, ouais. Hein. Mm-hmm.
Qui est d'ailleurs le seul système auquel j'ai vraiment beaucoup joué. Enfin, beaucoup, c'est beaucoup de parler. Plus de deux parties, on va dire.
D'accord.
Quand même un peu plus.
T'as jamais testé Nobilis?
Nobilis, je l'ai lu avec énormément de plaisir, mais je ne l'ai jamais testé, non.
Ah oui, d'accord.
Ouais. J'ai quelque chose que je regrette d'ailleurs, j'espère un jour pouvoir avoir l'occasion d'y jouer. Donc, depuis Ambre, ça fonctionne un peu toujours sur le même principe, quelque part, c'est un système qui compare en fait une capacité du personnage avec une difficulté, mmh. Et ça fournit un résultat, et pour modifier ce résultat, il y a plusieurs choses. En gros, les choses, les événements ont une logique interne, mais il y a des possibilités d'influencer cela, soit en faisant des compromis sur le résultat qu'on cherche à atteindre,
oui.
Soit en essayant de modifier les circonstances.
Oui.
En décrivant une situation ou une modification de la façon dont sont faites les choses.
D'accord.
Et voilà. Donc, en fait, dans ce jeu, il y a. Bon, à la fois les joueurs et les maîtres de jeu peuvent modifier le résultat. Je commence par je vais commencer plutôt par le maître de jeu. Le maître de jeu, en gros, je vous avais dit qu'on soustrait en fait la capacité du personnage à la difficulté ou l'inverse, je ne sais plus. Et en fait, ça donne un effet. Par exemple, si j'ai boire de la bière à 3 et face à une énorme quantité de bière.
Oui.
deux, par exemple.
Oui.
Ça me donne un résultat de 1 qui est considéré soit. Alors, je vais essayer de tweeter vite fait pour trouver le voilà. Comment interpréter un résultat. Donc là, c'est le maître de jeu qui va décider. Donc 1, c'est positif, hein, le résultat est positif, mais ça peut être l'action échoue, mais l'échec devient un avantage. Par exemple, tu n'as pas réussi à finir la bière, mais tu es toujours conscient.
Ce qui peut être bien pour rentrer chez toi.
Positif,
oui.
Oui, l'action réussit tout simplement. Donc tu bois la bière, tu gagnes un badge et tu tombes dans les pommes.
D'accord.
Et positif, maintenant ou jamais, l'action réussit, mais le personnage voit l'opportunité de réussir encore mieux. Cela implique toutefois un risque réel. Tu sens que tu peux te taper ensuite dans le baril de vodka, mais là tu risques d'y passer.
D'accord.
Donc
d'accord.
Je sais pas, enfin
oui, ouais.
c'est pas très horreur pour le coup mon exemple.
Oui,
mais
là c'est pas
ça
très
parle
bien
plus de notre réalité quotidienne, n'est-ce
d'accord.
pas.
D'accord. Mm-hmm.
Et donc le maître de jeu va pouvoir décider des effets d'un résultat et peut-être aussi en fonction de ses besoins de maître de jeu. Peut-être certainement adapté s'il a pas envie qu'un joueur réussisse, il peut faire un échec. Pour une action tout en concédant quelque chose au joueur.
D'accord.
Et de même, il peut donner peut-être le choix au joueur aussi de peut-être réussir une action mais à un certain prix, genre de choses. Donc, ça donne une certaine latitude au maître de jeu.
D'accord.
Pour aller dans le sens à la fois de l'histoire mais aussi peut-être des joueurs, hein, si ça se trouve, parce que les maîtres de jeu sont méchants mais aussi gentils.
Uh-huh.
Voilà. Donc, les maîtres de jeu peuvent influencer ça et les joueurs aussi. Bon, ils peuvent Bien sûr, en fait, quand ils décrivent leur action, ils peuvent adapter au mieux la description de l'action afin d'avoir un résultat positif.
Oui.
Et puis, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle les potentiels. Alors, les potentiels sont des sortes de caractéristiques qui permettent de donner des bonus. C'est des caractéristiques qui peuvent aller jusqu'à 3. Donc, il y a la vigueur, la volonté et la santé. La vigueur, c'est la capacité à fournir des efforts physiques, on va dire. La volonté, c'est des efforts mentaux, voilà, le fait d'avoir une détermination. Et la santé, c'est la santé physique.
D'accord.
C'est-à-dire, êtes-vous blessé ou pas. Donc, si vous n'êtes pas blessé, vous avez 3 en santé. Et le plus bas de ces 3 potentiels s'appelle la résistance. Et la vulnérabilité, attention, c'est encore un concept, c'est la résistance moins 3. Ou plutôt 3 moins la résistance.
Oh là, ça se complique.
Enfin, c'est la résistance et la vulnérabilité sont des contraires, donc qui vont de 3 à 0.
Oui.
Donc si j'ai 3 en vulnérabilité, ça veut dire que j'ai 0 en résistance.
D'accord.
Et okay. En fait, si j'ai, disons, 3 en vigueur, 3 en volonté et 2 en santé, par exemple, parce que j'ai été blessé.
Oui.
Ou parce que j'ai dépensé un point de santé afin d'avoir un bonus d'un dans
pour une action,
voilà. Oui. Je n'aurai que 2 en résistance, parce que c'est le plus bas de score de mes 3 potentiels.
D'accord.
Bon, je sais, il faut
se concentrer
3 minutes, mais après ça devient assez simple.
J'ai compris.
Voilà. Et donc, si j'ai 2 en vulnérabilité, en résistance, j'ai 1. 3 moins la vulnérabilité.
3 oui.
moins 2.
Oui,
1,
oui.
Voilà. Donc voilà, ça c'est des pools bonus, on va dire, qu'on peut utiliser. Donc il faut le faire avec prudence, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on baisse, et ben on peut pas. Enfin, il y a des conséquences à ça. Tout simplement, à 0 de santé, par exemple, on meurt. Enfin, on est en train de mourir, donc c'est relativement gênant. Voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a un second niveau derrière tout ça. Imaginons que c'est la fin de l'aventure, on est vraiment dans l'antre du monstre ou je ne sais quoi, et là
au moment où on va écraser les œufs de bébé alien.
Là voilà, on est un peu blessé, on est à moitié fou, etc. Et on a toujours un quatrième potentiel qui s'appelle le dernier potentiel. Alors, le dernier potentiel, en fait, c'est tout simplement, on regarde sa vulnérabilité, donc qui va de 0 à 3. 0,
oui.
On a plein de formes. 3, c'est-à-dire qu'on a
on est très vulnérable.
un des 3 potentiels qui est à 0,
oui.
Tout simplement. Et on peut dépenser donc au maximum cette vulnérabilité comme bonus. Donc on peut avoir jusqu'à 3 de bonus.
D'accord.
Et on met en fait les 3 points sous forme de haricots ou quoi qu'on veut.
D'accord.
Dans un pot
au milieu
qui en fait s'accumule, voilà, jusqu'à un certain point. Il y a une limite à l'accumulation possible.
Ouais.
Et c'est comme le danger qui grandit, ce pot.
D'accord.
Voilà, okay. C'est un pot à conséquences. Alors, soit si moi je suis le maître de jeu, je peux à certains moments décider de je vais piocher dans le pot. Et il va y avoir des hallucinations pour toi, par exemple.
D'accord.
Voilà, enfin, je peux infliger des trucs. Si je suis le joueur, j'ai peur de me choper un truc du MJ.
Oui.
Je peux aller piocher dans le pot. Si j'interprète l'alpha d'un autre personnage. Alors, hop, un nouveau concept. L'alpha. L'alpha, c'est un petit peu... Alors, toute proportion gardée, et au niveau de la mécanique, c'est un petit peu quand même l'ombre, le côté obscur, en fait, dans Wrath. Je ne sais pas si tu te souviens, dans le jeu de rôle Wrath,
oui, oui.
De White Wolf, on pouvait, quand on jouait un fantôme, on jouait aussi le côté sombre du fantôme, du joueur à côté de toi.
Mm-hmm.
Voilà. Et donc, en théorie, ça faisait... des parties assez, assez dynamiques avec, où on jouait à la fois soi et le méchant de l'autre. Et on
d'accord.
gagnait des points d'expérience si on jouait bien le méchant de l'autre. Enfin,
d'accord,
voilà, le côté
d'accord,
obscur.
Ok.
Et là, c'est un petit peu ça. Alors, l'alpha, c'est pas vraiment le côté obscur, puisque c'est plutôt l'idéal, quelque part. Ce serait limite le contraire. Mais
c'est quoi? C'est le côté chevaleresque du personnage ou
bah ça, en fait, c'est plus une sorte de
sa moralité.
Ça peut être le désir de justice d'un autre personnage, par exemple.
Ah, c'est ce qui le motive ou
je dirais son idéal. Alors, attends.
Son idéal.
Ouais, donne-moi une toute petite seconde.
Je t'en prie.
Et je vais te retrouver la façon dont c'est défini. Voilà, donc j'ai retrouvé le passage qui mentionne l'alpha. Je pense que, ça c'est juste un livret de découverte, hein. Ce sera expliqué beaucoup plus en détail dans le livre de règles, enfin normalement.
Dans le livre de base,
ouais. Ouais. Mm-hmm. Je me permets de lire un petit paragraphe. Quelques éléments ne sont pas sur la feuille de personnage. Tout d'abord, la personnalité que vous allez lui insuffler en l'incarnant. L'alpha et le trait dominant vous donneront bien sûr une piste, mais c'est à vous et uniquement à vous qu'il incombe de lui donner son âme et de le rendre unique. Ensuite vient sa carte d'alpha, qui attribue à un autre joueur sans que vous sachiez lequel. De même, vous recevez celle d'un autre joueur et avez ainsi le pouvoir de déclencher des événements qui sont relatifs à son histoire personnelle au sein de la partie. Et le dernier élément, mais non le moindre, est son problème, qui est connu uniquement du meneur de jeu, en tout cas dans le livret de base. Rassurez-vous, c'est un jeu d'horreur, vous aurez plus qu'un seul problème à gérer. Par contre, celui-là donnera un sens à sa vie. Enfin, voilà, en fait, il y a très peu de caractéristiques, hein. C'est pas un jeu à caractéristiques, c'est un jeu qui se base sur ce que fait votre personnage, son occupation, c'est peut-être ses passions, ce genre de choses, et qui essaye d'éviter qui essaie peut-être de déstabiliser les joueurs en même temps que les personnages. On se souvient historiquement de la santé mentale dans l'appel de Cthulhu, mécanique géniale qui faisait que le personnage avait vraiment peur de rencontrer, enfin le joueur avait vraiment peur que son personnage rencontre les monstres, puisque donc son personnage pouvait devenir fou et inutilisable. Là, il n'y a même pas le confort d'une caractéristique folie qui monte. Il y a d'une part une partie de sa personnalité qui est entre les mains d'un autre joueur quelque part. Il y a peut-être des problèmes qui sont connus du seul MJ. Alors, je ne sais pas comment ça va se goupiller dans le livre de base.
Ah, tu veux dire quelque chose ? Peut-être oui. J'affabule.
Vas-y.
Mais c'est ce qui est joué par l'autre joueur, donc c'est l'alpha.
Oui.
Peut-être que celui-ci est modifié quand tu commences à devenir fou.
Je ne sais pas, mais c'est une. Peut-être que ça a un lien aussi avec le background tel qu'il va se développer au fur et à mesure dans la gamme.
Oui.
On peut imaginer que en fait, il y a une composante surnaturel qui nous échappe oui. À l'heure actuelle.
D'ailleurs, tu n'as que brièvement abordé l'univers tout à l'heure, tu peux nous en dire plus.
Alors, hein. Juste avant, je vais y aller, mais je me dépêche. J'ai qu'un bouquin à écrire aujourd'hui.
Alors donc tu l'as dépouillé voilà. En fait.
non, mais en fait, je voulais dire que c'est... comment dire ? C'est un jeu dont les règles m'ont séduit parce que voilà, il n'y a pas le confort d'avoir des caractéristiques qui permettent de délimiter le problème. Donc tu vois ton personnage, mais tu ne connais pas tous ses problèmes. Déjà.
Et tu sais pas quand il va craquer, par exemple.
Tu sais pas quand il va craquer. Il y a même des règles pour quand tu arrives à un moment. Vous savez, dans les films d'horreur, le moment où on perd les pédales et tout,
oui.
y a des règles pour gérer ça, pour des règles de pression en fait, quand y a un moment particulièrement pénible.
Oui.
Et c'est là qu'on est bien content d'avoir économisé vigueur, volonté et santé parce que voilà, on peut
là,
ensuite.
Là, tu vas pouvoir claquer des points pour éviter de.
Est-ce que tu peux claquer des points
Parce que apparemment tu dépenses les points pour pouvoir résister à certains événements.
Oui. Alors ensuite, en fait, tu te souviens de la résistance,
oui,
qui
oui.
est en fait ton score de potentiel le plus bas.
Oui.
Parfois, tu vas être confronté à des événements atroces, etc. Et il va falloir que ta résistance soit supérieur ou
à l'événement lui-même,
à l'indice de pression de l'événement.
Ah.
Ensuite,
si tu as 3 et que l'événement est à 5,
5, je ne sais pas si c'est vraiment commun ou possible, etc. Mais soit en tant que joueur, la réaction que tu fais
si
adopter
tu
ton
rentres
personnage...
dans ta cuisine et que tu vois Zatot en train de se faire une omelette, Qu'est-ce que ça représente comme...
Non, mais alors, si tu vois Zata en train de faire une omelette, imaginons, peut-être que tu vas perdre les pédales, mais ensuite, c'est à toi, le joueur, de... Même quand tu perds les pédales, c'est au joueur de jouer. C'est lui qui va assumer les conséquences de son
de sa folie,
de son trouble.
Oui.
Et s'il le fait pas, ensuite le voilà les règles, je crois, prévoient que si la réaction du joueur ne correspond pas à la conduite suggérée, il perd autant de points de volonté que l'indice de pression de la scène moins sa valeur de résistance. Bon, en gros, et quand il a plus de volonté, il peut plus agir. Voilà, donc en gros, il doit interpréter le personnage. Si tu vois Azathoth en train de faire une omelette dans la cuisine, peut-être que dans un coup de folie, tu te mets à devenir un berserk et à frapper la cuisinière ou je sais pas. C'est une situation assez rare.
Oui, pas très fréquente dans les jeux d'horreur.
Oui. Voilà, donc j'ai bien compris, je vais passer maintenant au scénario, qui est quand même la plus grosse partie. Donc les règles, vraiment, je trouve ça assez séduisant, mais encore une fois, je n'ai pas testé.
Oui, voilà. Oui. Et puis il manque probablement plein de choses.
Il manque plein de choses, oui, c'est très brièvement abordé, tu vois, l'alpha, on en a parlé un petit peu. Ouais. Je pense que ce sera une mécanique intéressante.
Selon toi, c'est jouable en l'état quand même?
D'autant plus qu'on va, en fait, l'important... Bon, ça va être peut-être moins quand même l'interaction entre les joueurs avec leur histoire, leur perturbation et autre chose. Ça va être moins ça que le scénario lui-même. C'est-à-dire l'investigation.
Oui, c'est vrai que
ça reste un jeu d'enquête, je pense, un jeu d'enquête. En tout cas, c'est ce que le premier scénario, celui du livre des couleurs, fait s'entendre. Voilà. Ça s'appelle Le Diable du New Hampshire. Alors,
ça me rappelle vaguement quelque chose. C'était pas un serial killer ou un truc comme ça?
C'est possible. Maintenant que tu le dis, c'est possible.
Il n'y avait pas le boucher du New Hampshire?
J'ai vu un film avec Copycat là, avec Sigourney Weaver. Je me demande s'il n'y avait pas mention de ce. Enfin bref, c'est effectivement peut-être le titre d'un serial killer historique.
Oui.
Toujours est-il que là, bon, je ne vais pas dévoiler le scénario, hein, c'est pas un serial killer, c'est un pyromane.
D'accord.
Voilà, c'est en gros, c'est une histoire d'incendie volontaire.
D'accord.
On pense tout de suite à quelques films marquants sur le sujet, hein. Il y avait eu 2-3 films, je crois, et qui étaient très sympathiques. Et là, c'est vraiment bien présenté. Le scénario, en fait, il faut penser à quelque chose, un mixte, j'ai envie de dire, entre les experts et From Hell. Voilà. Entre le côté analyse
scientifique
et puis réflexion, etc., et puis le côté un peu complètement barge de From Hell avec tous les ésotériques, avec des trucs,
le symbolisme,
voilà, exactement. Donc voilà, bon, encore une fois, on va pas trop parler du scénario. Moi, je l'ai trouvé très bien très bien écrit, très documenté. Alors il y a des petites aides de jeu sur le site des Écuries d'Augias. Ce jeu est édité par les Écuries d'Augias.
Oui.
Vite fait, d'ailleurs, je vous donne l'URL si jamais vous avez envie d'aller regarder. C'est www.écuries-augias, A-U-G-I-A-S, hein, comme dans la mythologie grecque, .com. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour du sujet. Au feeling, au toucher, ça m'a fait un peu penser à Wrath. Je ne sais pas si c'est volontaire, hein, avec le titre Within.
La présentation.
Ouais, la présentation en général. Mais bon, c'est tout simplement un jeu d'horreur. Donc c'est,
oui,
c'est,
oui,
voilà,
oui.
C'est normal aussi que... Mais, voilà. Mais c'est un compliment. Hein. Voilà, donc
d'accord.
J'ai apprécié de le lire. Je suis plus jeu d'horreur de ce type que jeu de zombie.
Oui, d'accord.
Mais voilà, je pense que on en sait très peu, même en lisant le livre de le livret de découverte, oui. qui, entre parenthèses, doit être lu, bien sûr, que par le maître de jeu potentiel, oui. pas par le joueur. Sinon, vous l'offrez à votre maître de jeu. Je disais quoi ? Sûrement quelque chose de très intéressant, mais quoi ? oui, en fait, l'univers, on en connaît vraiment peu. Ça peut très bien virer au culte, enfin au culte plutôt. Ça peut virer au shill. Ah oui, parce qu'il y a mention de grandes organisations. Il y a un exemple d'organisation dans le livret. C'est celle à laquelle appartiennent les joueurs. C'est une sorte d'organisation pas secrète, même officielle, une sorte de fondation, quoi. Enfin, un truc un peu typique.
Il y a aussi un jeu comme Delta Green, par exemple, qui est un peu dans cette veine.
Ben, oui, alors il n'y a pas le côté... enfin, pour l'instant, il n'apparaît pas le côté... Il n'y a pas la CIA, il n'y a pas... On sait quand même relativement peu de choses sur le monde pour l'instant. Ça se veut quand même être une boîte à outils. La boîte à outils, c'est bien, hein, je comprends, mais c'est ce qui fait le charme d'un jeu, c'est aussi... ses particularités, donc on attend de voir avec impatience. Oui. Mmh. Et donc, pour rappel, vous pouvez contribuer, mais en fait en commandant pour 45€ le livre de base de ce jeu, donc qui sera un grand livre à couverture rigide, 320 pages environ. Et les souscripteurs auront un petit bonus en plus, voilà, des petites feuilles de personnages, vierges, etc. Sortie prévue le dernier trimestre 2011, en théorie.
D'accord, très bien. Oui, bien, merci Cyril. C'est à moi. Je vais te parler des 1000 marches, le dernier jeu de John Doe. Donc les 1000 marches est un jeu de rôle qui est paru chez John Doe pour 29€ et qui compte un peu plus de 190 pages, donc à peu près le même format que Tenga. Donc il s'agit du premier volume d'une nouvelle gamme. Cette fois-ci c'est pas c'est dans leur ce qu'ils avaient intitulé les DOA, les Dead on Arrival.
D'accord, un livre gamme quoi.
Voilà, c'est ça. Donc celui-ci, c'est vraiment le début d'une gamme qui s'intéresseront à d'autres marches que celle qui est décrite dans ce volume. C'est un multivers dans lequel il y a Gaïa ou Gué, qui est la Terre, qui est une espèce d'entité consciente qui en fait prend soin des hommes en quelque sorte qui vivent sur celle-ci. Et elle a créé une zone, donc tout ce que je vais raconter est très métaphorique parce que finalement c'est de la mythologie. C'est de la mythologie. Donc tout l'inconscient des hommes, toutes les histoires, tous les contes, tous les personnages archétypaux sont dans ce que l'on appelle les brumes, qui sont là où se trouvent les 1000 marches elles-mêmes.
D'accord. Ça fait un tout petit peu penser à Changelin, le songe, ce genre de choses.
Pas vraiment. Non, c'est pas Changelin. Il y a finalement qu'un seul monde féerique, si tu veux. Alors que là, il y a des univers. Donc c'est un multivers dans le sens où il y a plein d'univers très très à l'opposé des uns des autres, qui peuvent être en connexion.
D'accord.
Donc c'est un multivers et au centre de celui-ci, il y a une ville qui, un peu comme Sigil dans Planescape pour Donjon, donc là c'est le monde d'Europa.
Ok, c'est un peu l'équivalent de Châtelet-Léal mais dans le multivers.
De Châtelet-Léal ? Pourquoi ?
Au cœur de toutes les lignes. C'est le hub du multivers.
Oui, voilà. Oui, en quelque sorte. et cet univers, donc, qui est celui qui est décrit en priorité dans ce volume, c'est un espèce de... C'est une Europe, enfin plutôt c'est le monde tel qu'il est actuellement au même niveau de technologie, tout ça. Simplement, il y a une zone de l'Europe qui est la Belgique plus en gros le nord de la France, jusqu'aux alentours de Charleville-Mézières, par là. Donc, qui forme une espèce de zone franche appelée Europa, où il y a une sorte d'utopie réaliste, dans le sens où il est faisable, basée sur l'écologie solidaire, les échanges non marchands, les sels, tu sais, les systèmes d'échange locaux, les trocs.
C'est marrant d'avoir ça dans un jeu de rôle, un côté écolo, je sais pas.
Depuis.
C'est pas commun, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est pas très commun. Qui s'intéresse à l'écologie, il y avait quoi ? Il y avait Blue Planet, et puis avant le jeu de croc qui s'appelait.
Animonde. Il y en avait d'autres, Chan, c'était pas aussi.
Ah
oui,
Chan.
Thématique
aussi,
un peu fumette.
Un peu fumette. Non mais c'est intéressant parce que il y a en gros il y a tout un espèce d'idéal de gauche, tu vois, un peu libertaire et tout ça.
Donc ce jeu est fait pour les gauchos.
non pas vraiment, parce que finalement c'est un monde parmi tant d'autres, puisque c'est une marche parmi les mille.
D'accord, donc on a aussi une marche avec des souris nazies qui gardent des cartes.
Allez, c'est reparti avec les souris.
Et c'est un jeu qui, pour une fois, ne nous emmène pas aux États-Unis, qui prend pour carte l'Europe. Donc on va avoir des noms qui fleurent le fromage, ce genre de choses.
Oui et non, parce que c'est en Belgique. Enfin, c'est centré sur la Belgique. Non, mais je veux dire, moi, j'ai jamais mis les pieds à Bruxelles, donc pour moi, c'est aussi original que si c'était un monde inventé.
D'accord.
Une chose à noter, la description de la ville et de la zone elle-même n'est finalement pas hyper développée. C'est-à-dire, ça laisse vraiment beaucoup de place pour la création des joueurs. En revanche, il y a énormément de background, mais utilisé. C'est-à-dire que les choses utiles sont intégrées directement à la campagne qui est à l'intérieur du livre. Voilà. Au lieu d'avoir, on parlait de la critique de Dissident sur Nightcrawler, fait qu'il y ait énormément de choses.
Oui, je me souviens très bien de ta remarque, mais on s'en fout.
Ouais, voilà, le côté encyclopédique à tort, enfin, tu vois, voilà.
Oui.
Et là, au contraire, c'est j'ai l'impression que la volonté, c'était vraiment de mettre le maximum de choses dans la campagne et que tout serve, quoi.
D'accord. Que ce
que
soit,
les,
oui.
les, que tu quand tu le te lances à jouer cette campagne, tu aies le maximum d'éléments sympas à avoir.
Alors, quel type de campagne on peut jouer dans un univers un petit peu optimiste, finalement, si j'ai bien compris, qui décrit quoi ?
Alors,
c'est l'Europe du futur, mais où ça a bien tourné
un peu
colo.
En fait, c'est plutôt une uchronie.
D'accord, ça se déroule à une époque particulière
En fait, non, ça pourrait être maintenant, si tu veux, mais avec une situation des autres pays qui a... ayant beaucoup changé, c'est-à-dire, mais où les méfaits du libéralisme sont toujours présents, donc avec les effets de la déréglementation financière a fait que ça a provoqué des crises systémiques au niveau économique, enfin bref, des situations vraiment pas joyeuses.
D'accord.
Donc c'est ce qu'on aura sous les yeux d'ici 2 ans, comme ça.
C'est vrai, la construction de ton bunker anti-atomique progresse.
Non, mais c'est pas impossible qu'il y ait une nouvelle crise économique.
Attention, public de Radio Reliste en direct, Cobalt veut prédire
mais non, mais crise économique. Non, c'est pas ça, mais en fait, comme l'univers est quand même vachement orienté idéologiquement, c'est dur de pas embrayer dessus.
D'accord.
Oui. Non, mais tu as raison, on va... arrêtons là les diatribes gauchistes. Continuons sur le livre. Oui, tu disais, il y a pas de méchants. Eh bien, si, puisque il y a toujours les lobbies, les pays hors de la petite zone. Imagine un pays de la taille de la Belgique, il a le reste du monde contre lui finalement.
Ah oui, d'accord, oui.
Et en fait, à l'intérieur de ce monde, il y a une composante fantastique, c'est-à-dire qu'il y a des créatures féeriques ou des éléments comme ça qui vont entrer dans le cœur du scénario.
C'est un peu comme Castle Falkenstein, mais un peu plus high-tech.
Alors Marc, quoi que, oui, enfin, je vois ce que tu veux dire. C'est une ambiance contemporaine, mais avec des éléments fantastiques acceptés, on va dire.
Bah oui, inclus dans la géopolitique et tout.
Voilà. Mmh. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu ça. Et donc la campagne est assez énorme parce que doit y avoir. Il y a 6 ou 7 scénarios. Attends, je sais plus.
Donc campagne. Alors, qui est inclus dans le livre de base.
Voilà. Et en fait, il y a 5 chapitres, plus un épilogue, et en sachant que chaque chapitre est composé de 6 ou 7 scènes ou quelque chose comme ça. Donc, il y a de quoi jouer pour un bon moment. Donc, au lieu d'aller tuer des aliens, tu peux aussi aller vivre dans un monde utopique et un peu fantastique et jouer cette campagne, puisque là, il y a de quoi tenir l'été, je pense.
D'accord, mais on joue quoi, en fait, des magiciens des...
Tu peux décider ou non... Si tu donnes de la magie à tes personnages et tout, le système de jeu utilisé permet de gérer à peu près tous les types de situations, dont le fait que tu puisses donner de la magie à tes personnages.
Qu'est-ce que tu peux interpréter comme personnage? Un guerrier, un marchand ou alors c'est peut-être pas en termes de profession, mais tu peux jouer quelqu'un d'une autre marche, par exemple?
Je sais pas.
D'accord.
Enfin, si, tu peux. Tu peux, mais je veux dire, de là à l'inclure dans le scénario, c'est pas forcément facile.
Parce que les gens vont te regarder,
tout,
parce que les gens ils sont au courant qu'il y a plein de marches. Est-ce que par exemple une des marches ça pourrait être notre terre à nous?
Non, puisque notre terre à nous c'est la seule vraie qui a pas de magie dedans, puisque toute la magie elle est dans le monde des brumes.
D'accord, oui, d'accord. Oui, en fait, oui. Le monde réel existe, mais c'est pas là qu'on joue.
Voilà.
En fait.
Et en fait, il y a des périodes historiques complètes qui ont été projetées dans les marches par la Terre.
Et alors, donc finalement, les marches sont une excroissance, sont une projection qui vient de la Terre.
Oui, un peu.
Est-ce que
oui.
Y a des marches dans les marches? Est-ce qu'il y a des mondes encore derrière tout ça? Un peu à la Inception.
Non.
Tu vas de plus en plus loin dans le.
Non,
dans
non,
le...
non. Après, les zones sont. En fait, ça fait comme du grumeau dans un potage, tu vois. C'est
D'accord.
Tu passes de grumeau en grumeau, voilà.
Ok. Je note.
L'image est pas très belle, je te l'accorde.
Non,
alors, pour répondre à ta question de tout à l'heure sur ce qu'on peut jouer ou pas et sur la magie et pas la magie, en fait, il y a des encarts donc spécialement pour pouvoir jouer la campagne dans de bonnes conditions, on va dire. Donc sur la magie, le choix est laissé au MJ, mais sur Europa, la magie est plutôt discrète. Donc en fait, qu'il y en ait, qu'il n'y en ait pas, finalement, c'est pas super important, étant donné qu'on ne lance pas des boules de feu à tire-larigot.
D'accord.
D'autre part, il est fourni des sortes de des métiers, pour les personnages et qui sont adaptés à la marche en question. Donc, qui sont, étant donné que le monde d'Europa est quasi contemporain, tu vois à peu près de ce que tu peux jouer. Oui, après, une fois que tu auras joué la campagne, tu pourras créer ta propre marche et envoyer les personnages comme ça de monde en monde.
C'est toujours génial ce genre de jeu. Enfin, moi, ça me fait penser tout de suite à mon jeu préféré, Toan. Non, mais c'est vrai.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Ou alors, sinon, on peut trouver d'autres exemples. Hein. Ambre,
oui, bien sûr.
Pourquoi pas.
Oui. Il y a beaucoup de Ambre, finalement, là-dedans. Sans le côté puissance intrinsèque des personnages.
Oui.
Ah oui, également pour la campagne qui est proposée, l'auteur part du principe que ce sont des personnages qui sont puissants, installés avec des réseaux, que ce sont des héros, enfin des vétérans, et donc on part du principe que ce sont des héros puissants. Donc du coup, on peut commencer à développer une campagne un peu plus de plus haut niveau que si on créait des personnages de base.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que c'est un jeu comment dire, plutôt héroïque, enfin Star Wars, les personnages vont pas mourir, ou alors c'est un jeu où le péril rôde, ils sont vraiment.
Alors sur le système de jeu. Oui, c'est du plutôt héroïque. Donc je te décris un petit peu comment le système fonctionne.
S'il te plaît, décris-moi un petit peu comment
Allez,
le système fonctionne.
Je vais te faire tout le système.
Oh, oui.
Tu vas voir, ce sera bon. Sur la feuille de personnage, il y a deux catégories d'attributs en quelque sorte. Il y a d'une part les qualités qui sont la vigueur, l'esprit, l'agilité et la chance, et d'autre part les ressources qui sont l'adrénaline, la vaillance, la concentration et l'éveil. Tu vois, les qualités, finalement, c'est les attributs du personnage plutôt classiques. Et les ressources, c'est le petit plus dont tu as besoin dans les situations qu'il demande.
C'est le potentiel dans Within, enfin, c'est les,
ouais, voilà, parce que
les, tu vois, points d'héroïsme.
Voilà, etc. Quand je vois adrénaline, vaillance, tout ça, tu vois. Et, sauf qu'il y a des scores pour chacun d'eux. Pour une action standard, c'est-à-dire qui demande pas ce petit truc en plus, justement, on lance 2d6, on ajoute la qualité qui correspond à l'action qu'on veut faire, et grosso modo, on doit dépasser 9. Voilà, c'est ça la base. Et pour les actions qui demandent, donc les actions dangereuses, héroïques, etc., dans des conditions un peu spéciales, c'est 2d6, qualité, plus une ressource, donc des ressources intérieures ou des ressources extérieures qui sont les apprentissages, qui sont l'acquis, donc un métier, un don, quelque chose qui fait que ton personnage est meilleur qu'un autre dans ce domaine-là. Et il y a également un autre petit truc qui est l'aspect, qui là, ça ressemble pas mal à ce dont tu parlais pour l'alpha, c'est ça ?
Oui, l'alpha, le trait dominant.
Là, c'est l'aspect, c'est une valeur morale ou idéologique, une spécialité ou un savoir-faire, donc une réputation. Donc voilà, il faut que ce soit quelque chose qui soit interprétable à la fois en positif et en négatif. C'est ton, voilà,
ouais.
C'est ton caractère.
Ouais, ouais.
Et donc, si on utilise ça, cet aspect, on lance 3d6 au lieu de 2d6 et on garde les deux meilleurs. Et si on l'utilise en négatif, on garde les deux pires.
Ok.
Et donc, on rajoute à ça le double 6, c'est un critique, et le double 1, un fumble. Et voilà, ça c'est la base du système. À cela se rajoutent quelques petites pépites pour ceux qui aiment bien les systèmes avec des petits bouts qui croustillent dedans. Donc, il y a les prouesses et les risques qui sont des choses qu'on peut tenter en plus pour une action, mais qui peut te revenir dans la figure si tu rates. Voilà, ce genre de choses. Il y a la gestion de l'héroïsme, l'initiative, le combat à deux armes, voilà, tout ça. Pour le MJ, il y a un typage des PNJ en brut, homme de main ou alors adversaire, enfin antagoniste. Pour la magie, il y a un petit côté DK. Tu te souviens du DK d'Eric? C'est un système freeform. On fait un peu ce qu'on veut comme effet. Simplement, ça, on sait que ça génère un point de dégâts ou un point de vie en plus. Voilà.
D'accord.
C'est un des 6 points de dégâts ou un des 6 points de vie. Voilà. Et en plus de ça, il y a deux petits outils. Le Grumpf, l'auteur du jeu, il dit lorsque par exemple il y a des voyages, c'est souvent un peu chiant. C'est-à-dire, soit tu tires des dés de rencontre 17 fois de suite parce que tu as 17 jours de voyage, tout ça. Et là,
c'est quoi la solution,
là, ce qu'il utilise, ce sont des cartes de péripéties qui permettent d'ajouter une situation.
C'est le tarot de l'aventure.
Ça. Voilà, c'est un petit peu ça qui te permet de pimenter le voyage. Et puis sinon, tu fais des ellipses et puis tu arrives.
Je me souviens quand je jouais à Pendragon avec mes cousins il y a très 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 longtemps.
Oui.
Où on faisait les tours de garde durant la nuit. Donc c'est ce que tu décrivais, quand on jetait les dés pour voir si on s'endormait. Et puis ensuite,
le jeu disait,
bon,
ça.
Il se passe rien.
Il ne se passe rien.
Voilà, donc c'était effectivement un petit peu bon.
Et puis il y a également les arènes de combat, c'est-à-dire que lorsque tu fais un combat, tu fais en sorte que le décor qui sert dans ce combat, on le considère comme une arène avec des caractéristiques comment dire, qui viennent apporter des modificateurs aux actions des personnages. Ça permet de typer rapidement en fait dans quelles circonstances se passe un combat pour pouvoir lui donner plus de pêche et voilà. Donc c'est un petit peu tout pour le système.
Tu l'as pas testé, non? Enfin, un peu
non, en fait,
nous,
c'est.
Mais en revanche, tu sembles avoir apprécié globalement.
Oui, il est pas. En fait, c'est un système qui est dérivé de celui de Barbarians of Lemuria.
Barbarians.
Là, c'est vraiment pour te moquer de moi.
Ouais. Serial killer.
Barbarians of Lemuria, qui est un excellent jeu. Tiens, d'ailleurs, je vais te le passer et tu vas le lire pour la prochaine fois.
Ah, pourquoi pas, oui. Enfin, tu sais que j'ai déjà des devoirs de lecture.
Oui, je sais que tu as de gros devoirs à faire pendant l'été. Donc, voilà, écoute, je pense que j'ai terminé. Donc, les 1000 marches, au début, je dois dire, je sais pas pourquoi, j'étais un peu sceptique sur l'univers et tout, et puis finalement en fait en lisant la campagne, j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait la campagne. Ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'elle est c'est bien mis en page, parce que tu as plein d'encarts en fait qui t'aident à resituer à chaque fois le sens de la scène que tu vas faire jouer et les enjeux qu'il y a dans celle-ci. Quel type de situation va en résulter, voilà, c'est vraiment très très bien fait. Il y a vraiment beaucoup de boulot. Et pour ceux qui aiment les illustrations du Grumpf, il y en a plein. Et moi, je les trouve vraiment très jolies. Et bien sûr, je ne l'ai pas. Il me semble avoir déjà dit, mais la couverture est super belle.
Oui, alors moi, je l'ai comparé spontanément. À Mucha, je crois.
Ouais, enfin, mais on en avait déjà parlé. D'accord. Je t'avais montré avant qu'il sorte la couverture.
Ouais,
je crois.
Pour ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est l'artiste assez ancien, d'ailleurs, je pense, 19e peut-être,
ouais.
Qui décore les cochonneries en verre qu'on vend dans les galeries.
Les cochonneries en verre. Non, genre... Dis donc, ça fait rudement envie tout ça.
Non, mais style Art Nouveau, assez.
Oui, tout à fait.
Assez stylisé. Mm. Bref. C'est parisien.
Voilà, donc un très bon jeu. Cyril, tu voulais rajouter quelque chose
Sur Within. Oui. Je ne sais pas si j'avais mentionné le prix du livret de découverte lui-même, parce que
non, pas du tout.
J'avais parlé du livre de base qui n'est pas encore paru et sur lequel il faut souscrire. Mm-hmm. C'est 10 euros. Hein. 10 euros pour 70 pages. Voilà, d'accord. Donc c'était mm-hmm. pour information dans toutes les bonnes boulangeries.
Ouais, mais je trouve que c'est un petit peu cher pour un jeu qu'on sera obligé de racheter ensuite.
Mais oui, attention, parce que le scénario, il est unique au jeu, je pense. Enfin, unique au livret de découverte.
Ah,
certes,
ça fait un scénario.
Ah oui, il y a quand même le scénario, les prêts tirés à la fin, mm-hmm. Genre mm-hmm. de choses. D'ailleurs, dernière petite note sur le scénario, quand même, il est... Bon, c'est vraiment un jeu d'horreur, donc... bon, moi, j'ai une âme sensible, alors à la lecture, oh là là... Pff.
T'as fait pipi?
Ah, Non, mais j'ai arrêté un moment, j'ai pleuré, et puis ensuite, j'ai recommencé.
En serrant très fort ton grumbling voilà. Contre toi.
Non, mais voilà, il y a des trucs horribles qui se passent dedans, donc faut apprécier aussi ça.
D'accord, très bien.
Juste, c'est pas un jeu d'aventure.
oui, voilà, on va pas rigoler des masses pendant la partie.
non, c'est pas le thème, c'est pas le thème, effectivement.
Bon, et bien écoute, Cyril, on a terminé. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis,
merci,
à la prochaine.
Merci.
Ciao.
À tous. Salut.